I'm turning now to Paul's letter to the Romans, chapter 10 and verse 9.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 10 et au verset 9. Romains, chapitre 10, verset 9. Ce sont là les paroles. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous voyons ici la définition inspirée de l'apôtre Paul, une définition de la foi qui sauve, ce que c'est que d'avoir la foi authentique en Christ. C'est là une explication extraordinaire, merveilleuse, dans ce chapitre. Il y a des passages plutôt difficiles dans ce chapitre, mais nous voyons ici l'arrière-plan de cette déclaration qui est une aide pour nous, pour que nous puissions comprendre ceci. C'est là mon premier point. Le mauvais chemin vers Dieu. Et Paul commence par cela, au début même du chapitre, au verset 1. « Frères, le souhait de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. » Il veut que les Israélites, les gens du même pays que lui, soit sauvé. Il prêche toujours aux Juifs avant de prêcher aux non-Juifs dans toute ville, dans tout village où il va. Quand il prêche l'Évangile, dans ses voyages missionnaires, il va toujours dans les synagogues. Il s'adresse toujours aux Juifs d'abord parce qu'il a cet amour pour eux, ce souci pour eux. Si souvent, quand il est rejeté par eux, alors il va vers la population non-juive. Au verset 2, car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans connaissance. Il est en souci pour eux parce que c'est un peuple si religieux et ils devraient comprendre le chemin du salut, le chemin pour être pardonnés. Ils devraient comprendre, parce qu'ils ont tous les livres de l'Ancien Testament, ils devraient comprendre que Dieu œuvre par grâce, c'est-à-dire qu'il sauve, il transforme les vies, la vie de gens qui viennent à lui en dépendant de sa miséricorde, de son pardon libre, et qui n'imaginent pas qu'ils peuvent être acceptés par Dieu, qu'ils n'imaginent pas qu'ils sont suffisamment bons pour être acceptés par Dieu. Dieu œuvre par grâce, c'est là le message de l'Ancien Testament. Tous les rites, les cérémonies qui leur ont été données dans leur adoration, les sacrifices également. Non pas que ces sacrifices étaient efficaces ou ont fait quelque chose, mais c'était des symboles pour enseigner le peuple, pour leur enseigner que quelqu'un va devoir payer le prix pour votre pardon. Un sauveur, un grand descendant d'Abraham va venir un jour et lui va payer le prix. Et en attendant, vous vous confiez dans la miséricorde, dans la grâce de Dieu, que Dieu va d'une certaine manière pardonner tous vos péchés librement. Mais vous devez venir comme quelqu'un qui plaide pour le pardon et qui demande la vie et le toucher de Dieu sur votre vie pour vous transformer. Vous ne devez pas simplement venir dans sa présence avec orgueil et fierté en pensant que vous méritez sa bénédiction. C'était là tout le message de l'Ancien Testament. Mais un très grand nombre de Juifs ont fermé leurs oreilles à ce message, ne voulaient pas le recevoir. Ils se sont dit, non, nous sommes suffisamment bons tels que nous sommes. Nous sommes une nation particulière et nous allons mériter la faveur de Dieu en suivant d'une manière très précise toutes les cérémonies. Et en faisant ces choses, alors nous aurons la faveur de Dieu. Mais leur vie n'était pas transformée. Même les chefs des Juifs, très souvent, se comportaient d'une manière très méchante et très mauvaise de génération en génération. Ainsi, l'apôtre Paul dit « Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais ils sont dans l'erreur. » Ce n'est pas un zèle avec une connaissance, ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ils disent « Non, nous avons nos propres opinions par rapport à cela, nous sommes suffisamment bons tels que nous sommes. » Et l'apôtre Paul continue cet argument et le développe. Ce passage est si clair, ainsi pour introduire verset par verset. Je lis ce texte, « Car ne connaissant point la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. » Voyez-vous, ils n'ont pas compris que Dieu était saint. Ils n'ont pas compris que Dieu est pur et parfait. Et si vous pensez que vous pouvez mériter sa faveur par votre propre justice, alors vous devez être parfait. Vous ne pouvez pas avoir un seul péché. Vous ne pouvez pas avoir un seul trait de caractère méchant. Vous n'avez jamais dit un seul mensonge. Vous n'êtes pas orgueilleux. Il n'y a rien en vous qui est péché. Vous devez être parfait et entièrement pur, parce que c'est là le caractère même de Dieu. Car ne connaissant point la justice de Dieu, comme ceux qui étaient idolâtres et qui ont inventé ces histoires par rapport à leur déité mythique et ces histoires par rapport à ces idoles qui se combattent l'une l'autre et qui mentent l'une à l'autre. Mais les Juifs n'étaient pas vraiment différents. Ils se disaient, oh, Dieu n'est pas entièrement parfait, nous allons être acceptables à ses yeux. Ils pensaient que tout allait être bien pour eux. Car ne connaissant point la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ont imaginé, ils pensaient avec orgueil et fierté qu'ils étaient suffisamment bons. Ils ne se sont point soumis à la justice de Dieu. Ce qui signifie deux choses. Ils ne se sont jamais humiliés. Dieu est si juste. Nous avons besoin de sa miséricorde. Nous ne pouvons pas venir simplement dans sa présence telle que nous sommes et être loin de lui. Nous avons besoin de sa miséricorde, de son pardon, de son amour. Et ensuite, ils n'ont pas compris que Dieu allait pourvoir en leur donnant sa justice, que le Sauveur allait venir et que lui serait Dieu tout autant qu'homme et lui vivra une vie parfaite, une vie si parfaite, sous une provocation si terrible et extrême, qu'il puisse offrir sa parfaite justice au Père et qu'il puisse dire « Accepte ma perfection à la place de ceux qui sont mes enfants, ceux que je représente, ceux qui croient en moi. » Et il a souffert, il est mort à la croix du calvaire pour payer la condamnation du péché, à la place de tous ceux qui croient en lui. Il est la justice de Dieu, dit l'apôtre Paul. Les chefs des Juifs en particulier étaient affairés à penser qu'ils avaient une propre justice en eux-mêmes et ils ne voulaient pas s'humilier, ils ne voulaient pas se soumettre en disant « J'ai besoin d'un sauveur et j'ai besoin de sa justice et de son œuvre d'expiation pour ôter mon péché. » Et ensuite au verset 4, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Il a accompli la loi pour tous ceux qui croient en lui. » Et ensuite, j'en arrive au verset 6. Ce sont là des versets qui rendent certaines personnes confuses, mais la signification est claire. Mais la justice qui vient de la foi, la justice qui vous est donnée, si vous vous repentez de votre péché, si vous vous confiez en Christ, parle ainsi. Elle dit, « Ne dis point en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. » C'est la manière par laquelle Paul dit, « La justice que vous recevez en croyant en Christ, vous n'avez pas besoin d'aller loin dans un long voyage pour la trouver. » Qui montera au ciel, qui montera sur des montagnes et qui essaiera nuit et jour de travailler. Ce sont des métaphores. Vous n'avez pas besoin de mériter la faveur de Dieu ou de faire beaucoup d'efforts intenses. Non, vous ne pouvez pas. C'est si facile. Vous lui demandez simplement sa grâce. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Vous n'avez pas besoin d'aller dans la terre, dans l'abîme. C'est une manière de parler de quelque chose de profond. Vous n'avez pas besoin d'étudier des choses compliquées et des techniques pour essayer de trouver Christ. Non, ce n'est pas difficile ainsi. C'est la manière dont Paul explique ces choses. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de demander. Ceci m'amène au verset 8. Que dit-elle donc ? Et ceci est très important. C'est un autre point, si vous voulez. La parole est près de toi, au verset 8, dans ta bouche. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce que mon message prêche ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire que la parole de la foi que nous prêchons, c'est aussi simple qu'une prière. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est la première chose pour trouver Dieu, c'est de demander, de prier, de lui dire que vous croyez en lui, de lui dire dans la prière que vous croyez qu'il a souffert, qu'il est mort à la croix du calvaire pour un pécheur tel que vous et que vous pouvez être pardonné en vous confiant en lui. Dites-lui que vous vous confiez en lui. Ensuite, bien sûr, vous avez besoin de vous repentir de votre péché. Seigneur, pardonne mon péché. Je regrette tellement tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai été, et je me repens de mon péché sincèrement, de tout mon cœur. Et ensuite, vous avez besoin de vous consacrer à lui, et je te donne ma vie, vous le dites. C'est facile, chers amis. Vous ne pouvez pas le mériter, vous ne pouvez pas le mériter d'aucune manière. Vous pouvez simplement demander. C'est là la parole dans votre bouche. C'est la manière dont Paul nous dit, c'est aussi simple que ceci. Mais ceci n'est pas suffisant parce qu'il continue. Il y a un autre aspect en cela et ceci est important. Au verset 8, « Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Et au verset 9, « Si tu confesses de ta bouche, c'est là la partie facile, la prière. » Et que tu crois dans ton cœur, ainsi j'ai parlé de la prière qui vient de la bouche. Et à côté de ceci, en parallèle, il y a la prière du cœur, et ceci est important. Parce que peut-être vous allez prier cette prière qui vient de la bouche, mais sans nécessairement prier cette prière du cœur, et les deux doivent être là. Cette prière de la bouche, je crois en Jésus-Christ. Ô Seigneur, sauve-moi, donne-moi une vie nouvelle. Seigneur, je crois dans ce que tu as fait à la croix du calvaire pour ôter la condamnation de mon péché. Seigneur, reçois-moi. Ceci est une partie, c'est essentiel et vous devez comprendre et prier cette prière de la bouche. C'est une prière qui vient de la pensée également. Mais est-ce qu'il y a également la prière du cœur ? Et voici ce que cela signifie. Cette parole dans votre cœur, quelle est la différence ? La différence, chers amis, c'est la sincérité. Vous pouvez le dire, mais est-ce que vous dites ces choses sincèrement ? Et c'est là ce que j'aimerais expliquer. Vous devez vraiment le dire de tout votre cœur. Ainsi, vous priez de votre bouche et également vous priez de votre cœur, c'est toujours encore simple, mais sans le cœur, le Seigneur ne peut pas entendre votre prière. En d'autres termes, je ne prie pas cette prière de repentance en me repentant de mon péché, en croyant en Christ, ce qu'il a fait pour moi, en lui donnant ma vie. Je ne prie pas simplement pour maintenant, pour l'émotion du moment, mais c'est de tout mon cœur. Pour maintenant, pour demain, pour la semaine prochaine, pour le mois prochain, pour l'année prochaine, c'est quelque chose de sincère. Ce n'est pas simplement pour maintenant, mais c'est pour toujours. Je veux réellement lui donner ma vie pour toujours. Et je veux venir sous son aile et me confier en lui et être son enfant. C'est là la différence entre dire et le dire en toute sincérité. De tout cœur, parce qu'il y a ce sentiment qui est impliqué. Vous aspirez à cela, chers amis. C'est croire avec le cœur et il y a cette aspiration, ce sentiment et je suis honteux de mon péché, je suis honteux de ce que j'ai fait, je suis honteux de tous les mensonges que j'ai dit, des gens que j'ai blessés. Et je le ressens, Je suis touchée. Et quand je pense à la croix du calvaire, que Christ, qui est Dieu, par qui toutes choses ont été créées, qu'il quitte la cour glorieuse du ciel, qu'il vienne dans ce monde pour souffrir cette humiliation terrible, qu'il prenne une personnalité humaine et qu'il souffre, qu'il souffre, qu'il souffre pour une créature telle que moi. Oh, quelle bonté que celle-ci! Personne dans ce monde n'a exprimé cet amour pour moi, personne n'irait aussi loin que cela. Pour moi, en particulier s'ils me connaissent, la bonté de Christ, je viens à lui, non pas seulement parce que c'est facile de dire et je comprends à peine ces choses, mais je ressens ces choses, je suis honteux de mon péché et je suis émerveillé par Christ, par son amour, par le prix qu'il a payé pour un pécheur tel que moi. Si je viens à lui, il a pris mon éternité de condamnation et ceci comprimé en l'espace de quelques heures. Pour moi, je suis émerveillé et c'est une urgence. Je ressens que je dois venir à lui. Je me dis, oh, qu'est-ce qu'il se passera pour moi si je ne le trouve pas? Qu'est-ce qui se passera s'il ne me pardonne pas? Qu'est-ce qui se passera si je suis condamné à la fin de ma vie? Quand je passe par ce fleuve, quelle sera ma situation? Quel sera mon avenir? Si je vis sans lui et que je suis de plus en plus profondément dans le péché, dans l'incrédulité, et si j'endurcis mon cœur et je ressens ces choses, je dois être converti, je dois être sauvé. Et cette honte est là, en moi, et constamment je ressens ces choses. C'est là la différence entre la prière qui vient de la bouche, ceci est important, oui, et essentiel, et bon, mais doit être accompagné par la prière du cœur, qui est sincère et qui ressent ces choses. C'est là ce dont parle ce passage, c'est là ce dont l'apôtre Paul parle. C'est un message extraordinaire, le message de l'Évangile. Certains d'entre vous, jeunes gens ici, vous avez déjà des dettes, vous devez payer vos études et il y a des factures qui tombent. Mais imaginez que quelqu'un vous dit « Oh, je paye tout pour vous, toutes vos dettes, toutes vos factures, je les paye. Et je paye également pour que vous puissiez avoir un logement, pour que vous puissiez manger, pour votre nourriture, pour vos livres, et je fais tout ceci pour vous. Est-ce que vous ne seriez pas émerveillé ? Mais je parle de quelque chose de bien plus grand que cela, de bien plus grand. Christ a dit, je vais venir de la gloire dans votre monde et je vais souffrir, je vais mourir pour un pécheur tel que vous. Et vous avez simplement une chose facile à faire, prier cette prière de votre bouche et ressentir ces choses dans votre cœur. C'est extraordinaire, c'est merveilleux, chers amis. Je vous donne une maison, un appartement, tout ce dont vous avez besoin. C'est comme un monde de rêve, parce que ceci ne se passera pas. Mais quelque chose de bien plus grand que ceci s'est passé. Je vais vous donner le ciel, l'éternité et une vie avec moi. Cette joie, cette paix en moi et vous marchez avec moi. C'est là le message de Christ, c'est extraordinaire. Et vous devez ressentir ceci. J'ai besoin de ce message. Je ne peux pas continuer sans son amour, sans son pardon. La différence entre la prière qui vient de la bouche, qui est importante, et la prière qui vient du cœur. Je connaissais un homme, il y a bien des années, il avait la cinquantaine. Il avait l'air en bonne santé et il a eu un arrêt cardiaque. Et il m'a dit quand ceci s'est passé, il ne croyait pas que ceci pouvait être un arrêt cardiaque. Oh, je crois que ceci s'est passé pour beaucoup de gens. Et il a ressenti cette douleur. Et il s'est dit, oh, ça doit être une indigestion. Et il s'est senti un peu mieux. Et ensuite, la douleur est revenue. Et il était anxieux à nouveau. Et il s'est dit, oh, je sais ce que c'est. Il habitait à la campagne. Il y a quelques jours, j'ai porté des choses lourdes. Et des bûches de bois qui étaient assez lourdes. Et c'est simplement mes muscles qui me font mal. J'ai fait quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Ainsi, il était en paix. Et peu après, la douleur est venue réellement. Et il savait que c'était grave. Et il a appelé les urgences au téléphone. Il savait que c'était grave. C'est une illustration étrange, mais c'est la différence entre la prière qui vient de la bouche et la prière qui vient du cœur. Oui, c'est une bonne chose que de prier avec notre bouche. « Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sauve-moi. Je me repens de mon péché. Je te donne ma vie. » Mais faites bien attention que vous priez de tout votre cœur, que c'est une prière qui vient du cœur et que vous êtes sincère. C'est pour toujours et vous désirez ces choses et vous vous confiez en Christ réellement. C'est la croire de tout notre cœur. Chers amis, qu'est-ce que ce monde peut faire pour vous? Rien. Ce monde, cette société, d'une manière générale, est contre Dieu et opposée à Dieu. Mais ce monde pense qu'il va arriver à dominer votre vie. Ne vivez pas pour ce monde. Peut-être que j'ai dit ceci auparavant, mais j'ai lu un article concernant un couple qui rêvait d'une maison au soleil. Et ils sont partis en Espagne. Ils ont vendu leur appartement ici et ils ont acheté une maison de luxe. Et ils allaient avoir un bon temps là-bas. Le prix de leur maison au Royaume-Uni. En vendant cela, ils pouvaient acheter une maison merveilleuse avec une piscine, etc. Et ils ont vu une offre, et ils ont répondu. Et c'était dans un endroit merveilleux avec une belle vue sur la mer en Espagne. Et ils étaient enthousiastes. Ils ont commencé à interagir avec ceux qui construisaient et ils ont donné l'argent pour la maison. Ils ont tout vendu, ils ont payé l'argent. Et ils allaient s'installer dans un hôtel pas loin pendant que tout se mettait en place. Et le jour où ils sont allés vers leur maison idéale, dans un endroit si parfait, ils sont arrivés. Ils avaient vu auparavant les photos, mais quand ils sont arrivés, ils ont réalisé qu'il y avait une maison. La maison était là, mais elle avait été vendue à plusieurs douzaines de personnes et tout était complètement faux. C'était une supercherie complète. Et si vous vivez pour ce monde, c'est là une parabole de votre vie parce que le monde n'a pas les clés de l'éternité. Personne dans ce monde, aucun premier ministre, aucun roi, aucun empereur, aucun dictateur, personne dans ce monde, aucun universitaire, aucun professeur, personne n'a les clés de l'éternité, mais seul Dieu. Ainsi, vous devez le connaître et trouver la paix avec lui et recevoir son salut et prier cette prière qui vient de la bouche en montrant que vous comprenez réellement le chemin du salut. Vous vous confiez en Christ, en sa mort expiatoire. Vous vous repentez de votre péché et vous lui donnez votre vie. Et priez également cette prière du cœur sincèrement pour le rencontrer. Ce sont là des paroles extraordinaires. Et j'en arrive pour conclure au verset 11. En effet, l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus, ne sera pas confus, ne sera jamais déçu. » Au verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. » Ceci vous rappelle la promesse de Christ lui-même dans l'évangile de Jean au chapitre 6, au verset 37. « Celui qui vient à moi, je ne le repousserai pas. » Ces grandes promesses qui sont là comme des bijoux précieux, ce sont là vos promesses, votre garantie, alors que vous venez à Dieu dans la prière. Ô Seigneur, tu as promis que quiconque vient à toi, juif ou non juif, riche ou pauvre, de l'Occident ou de l'Est, jeune ou âgé, simple ou intelligent, peu importe, quiconque vient avec cette prière qui vient de la bouche et cette prière qui vient du cœur, trouvera le Seigneur et sera béni. Mon épouse n'aime pas cette illustration, mais je ne pense pas que ceci amène l'attention à moi. mais il y a bien des années, j'étais invité à rencontrer Sa Majesté la Reine à Buckingham Palace. Je n'étais pas seule, il n'y avait pas beaucoup de gens, mais un certain nombre de personnes. C'était un soir et nous étions reçus dans une pièce de banquet. La plupart des autres gens, à ma surprise, étaient à la tête de banques ou de grandes entreprises et c'était un mystère pour moi, je ne savais pas ce que je faisais là. Et nous étions là, nous avions ce temps avec la reine, elle a parlé avec chacun. Mes chers amis, ce qui m'a impressionné, c'est de rentrer. J'avais ma carte que j'avais imprimée, je suis arrivée à cette porte extérieure et on m'a dit « Oh, vous ne pouvez pas entrer à Buckingham Palace, mais avec ma carte, je pouvais rentrer. » Ensuite, vous continuez par la porte principale et là, à nouveau, vous avez la police et vous pouvez rentrer avec votre carte. Et après cela, c'est simplement une façade parce que vous avez encore une cour derrière. Et vous continuez, et ensuite, vous arrivez dans l'entrée principale. À chaque entrée, instantanément, vous pouvez entrer, et on vous laisse entrer avec politesse, courtoisie, grâce à cette carte. Et ensuite, vous arrivez dans ces escaliers merveilleux, et vous arrivez dans cette salle du banquet. La puissance de cette carte pour rentrer, la puissance d'une garantie, d'une invitation, d'une carte d'invitation. Chers amis, c'est là votre garantie, votre carte d'invitation. Quiconque croit en lui ne sera point confus, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et comment est-ce que je peux invoquer son nom? Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur, ainsi c'est simple, c'est une prière. Seigneur, je me confie en toi. Dans la croix du calvaire, Seigneur, je me repens de tous mes péchés horribles, terribles. Seigneur, je te donne ma vie. Et ensuite, de tout votre cœur, sincèrement, pour maintenant et pour toujours, et vous serez transformés. Et le Seigneur vous recevra et vous lui appartiendrez. Et il vous mettra sur le chemin vers la gloire éternelle. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, fais-nous grâce, nous te prions, nous te remercions pour le chemin du salut, le message de la rédemption. Ô Seigneur, fais-nous grâce et accorde-nous de nous confier en toi. Amène-nous à toi dans cette prière humble, dans la supplication et sauve les âmes et bénis-nous. Nous te demandons ces choses dans le nom de notre Sauveur bien-aimé, pour sa gloire. Amen.